Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans les incorrectibles sur Sud Radio, dans ce studio où j'aurai enfin, dans quelques instants, le plaisir de recevoir à nouveau un invité en chair et en os, et pas seulement par visioconférence. Vous le savez aussi, comme chaque dimanche, je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter en direct sur Sud Radio, mais aussi nous voir en live depuis Facebook et la page officielle de Sud Radio, ou encore en replay depuis la playlist des incorrectibles. C'est sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est donc parti pour un nouvel épisode des incorrectibles. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour nous fait le plaisir de revenir dans cette émission après avoir inauguré le second numéro. C'était en 2018, et oui déjà. Originaire de Grigny dans l'Essonne, c'est un poids super lourd de la boxe thaï. Il affiche 51 combats, de multiples titres de champion du monde. Et il a terminé sa brillante carrière par un ultime KO, le 45e de son riche palmarès. On a également pu l'apercevoir dans des petits rôles au cinéma et à la télévision, dans la prestigieuse série française Le Bureau des Légendes, entre autres, ou encore, je le disais donc au cinéma, dans le film Algérie pour toujours, où il a tourné avec Mike Tyson, et oui, rien que ça. Alliant autant le goût du spectacle que celui de la provocation, il a fait parler de lui lors de son clash avec le rappeur Booba, qui ne s'est toujours pas résolu, semble-t-il. Il est très présent et actif sur les réseaux sociaux, il entend combattre le communautarisme qui sévit notamment dans les cités, et il est à nos côtés en ce dernier jour du mois de mai pour commenter l'actualité chargée du moment. Patrice Carteron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, parlez bien près du micro.
Très bien.
Alors, actualité oblige, on va d'emblée commencer, si vous le voulez bien, Patrice Carteron, par évoquer ce qui se passe outre-Atlantique. Les tensions ne retombent pas aux États-Unis depuis le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans. C'était lors d'une interpellation par la police à Minneapolis. Les manifestations ont gagné de nombreuses villes du pays avec des scènes toujours plus violentes. En déplacement au centre spatial Kennedy en Floride, où il assistait au premier vol spatial habité de SpaceX, Donald Trump a estimé hier que la mémoire de la victime était, je cite, « déshonorée par les émeutiers, les pilleurs et les anarchistes », et il a appelé à la réconciliation, pas la haine, la justice, pas le chaos. De son côté, la famille de George Floyd, à laquelle le président Donald Trump a annoncé avoir parlé, a salué l'arrestation du policier comme un premier pas sur la voie de la justice, mais l'a jugée tardive et insuffisante. Et on le voit, donc depuis quelques heures, eh bien, les manifestations continuent de plus belle. Il y a même eu une scène absolument incroyable à New York où une voiture de police a foncé sur des manifestants. Alors, première question, Patrice Carteron, tout d'abord, quelle est votre réaction suite à ce décès qui s'inscrit sur une liste, et il est vrai, qui ne cesse de s'allonger, de noirs tués par des policiers aux États-Unis.
Tout d'abord, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Ça m'a choqué. Tu es une personne qui est, pour une histoire de billet de 20 dollars, qui pouvait être faux ou vrai, peu importe, pour 20 dollars. À partir du moment où la personne, elle est bloquée, interpellée, la tenir.
Ouais, alors on le rappelle, donc il a été interpellé, le genou du policier,
le genou sur la nuque, pendant plus de 8 minutes. Si ça avait été... Bon, il l'avait étranglé quelques secondes et puis qu'il s'était évanoui, qu'il y avait eu un accident. On aurait pu dire que c'est un accident. Là, c'est un meurtre. On l'a filmé pendant 8 minutes. Les gens lui ont demandé d'arrêter. Il tenait. Ses collègues savent très bien qu'une strangulation, ça peut être dangereux. 8 minutes, c'est sûr qu'on peut avoir des grosses conséquences. C'est quelqu'un qui a eu plus de 18 plaintes contre lui.
Ouais, c'est incroyable, on apprend ça. Ouais.
Il y a 18 plaintes contre lui, dont deux où il a eu juste une petite...
Et il est poursuivi pour homicide,
involontaire. Et cerise sur le gâteau, on a mis 3 jours avant de l'interpeller. 3 jours. Normalement, il devait être incarcéré de suite. Moi, ces gens-là... Comme
et seul, parce qu'il avait aussi 3 collègues, et ceux-là, pour l'instant...
Et personne n'a... Ouais, mais de toute façon, eux tous, ils sont complices. Ils auraient dû l'arrêter. Ils savent très bien, on sait très bien, moi, je connais les étranglements, on sait très bien qu'un étranglement, à un moment donné, c'est extrêmement dangereux. On ne connaît pas l'état de santé des gens. Il a 46 ans, ce monsieur, il peut faire 2 mètres ou quoi que ce soit, 46 ans, il est là. On sait très bien que c'est risqué. Il sait très bien ce qu'il a fait. C'est un meurtre, c'est pas involontaire. Il le sait, 8 minutes, c'est très très long. Un combat de 3 minutes, c'est l'enfer. 8 minutes.
Donc, et surtout, il le disait qu'il ne pouvait plus respirer.
Il disait qu'il ne respirait plus. Heureusement qu'il y avait des caméras. Heureusement que les gens ont vu ça. Il y a un mot que disait Will Smith. Maintenant, le racisme. Le racisme a toujours existé. Maintenant, on le filme. Maintenant, on voit les gens. On voit aussi les vérités. Parce qu'avant, il y en a qui ont pu dire « Ouais, c'est rajout, etc. » Là, c'est du racisme à l'état pur. C'est une crapule. C'est une merde. Je vais pas mâcher mes mots. C'est une merde, ce mec. Donc, et d'ailleurs, tout le monde s'est offusqué. On voit bien que juifs, musulmans, arabes, etc., ils sont tous sortis dans la rue pour cette personne.
Oui, enfin, vous comprenez, hein, vous soutenez cette révolte de ces manifestants.
On est en pleine pandémie, les gens sont dans la merde. Ici, on a un système qui artificiellement nous protège. Hein, d'accord, avec le chômage partiel et compagnie, ça n'existe pas.
On va y venir après.
Ça n'existe pas tout ça. Donc les gens sont dans la merde. Lui, il est complètement dans la merde. Pour 20 $, même si peut-être qu'il était vrai, peut-être qu'il était faux, on ne fait pas ça. Quelle que soit la raison, on ne tue pas quelqu'un comme ça. Donc ce qui arrive, c'est normal. Trois jours pour inculper ce mec de meurtre, et on lui met en plus involontaire. C'est totalement volontaire. Quelles que soient les raisons, c'est injustifiable. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai pas pu regarder la vidéo. Je vois à chaque fois la photo. Je suis incapable de regarder ça. Je suis incapable. C'est une sordurie.
Alors, Donald Trump était de retour hier soir dans une Maison Blanche ultra sécurisée. Un couvre-feu a été imposé dans la plupart des grandes villes du pays. La garde nationale est mobilisée. On voit que cela ne se calme pas. Le gouvernement américain, selon vous, Patrice Carteron, il est responsable de cette tension raciale dans le pays, Donald Trump en particulier. Il y a une du Times qu'on m'a rapportée qui est absolument incroyable.
Écoutez, de ce que je sais... les Chinois n'ont pas raconté la vérité par rapport au coronavirus. Donc, il y a eu une impréparation des Américains. Ils se sont retrouvés avec une pandémie qui a touché tous les États-Unis.
Non, mais sur cet acte-là.
Et donc, sur cet acte, non, justement, ça, les conséquences, c'est qu'à cause de ça, ben, il y a eu plein de gens en même temps qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc, tous ces gens-là, quand ça a fait une augmentation de la violence, etc., etc., tout le monde s'est retrouvé avec un taux de violence énorme. Et donc... Ouais, ils ont leur responsabilité, parce que s'ils avaient mieux géré à la base tout ça, eh ben, il y aurait pas eu ce problème-là. Il y aurait peut-être moins de problèmes, en tout cas. Là, il doit y en avoir Là, c'est comme ici, il va y avoir des problèmes de dingue, là. Là, c'est parce qu'on a encore le chômage partiel.
On
se rend pas compte de ce qui va se passer. La violence, ça va augmenter. Et les bavures,
vous me tendez la perche. D'abord, on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis précède souvent ce qui arrive plusieurs mois en France après. Et ce qu'on pourrait penser de cette fracture raciale qui s'accentue aux États-Unis, on le voit, c'est une fracture raciale, hein, selon vous. Vous employez ce terme quand même.
Non, là, ça a toujours été pareil. En fin de compte.
Est-ce qu'elle peut s'accentuer et s'exporter chez nous en Europe, en France en particulier, dans nos banlieues ?
Vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, c'est un problème social. C'est un problème social et tout le monde s'est retrouvé solidaire parce que tous ces gens qui étaient là, ils pouvaient être à sa place. Là, c'est sur lui que c'est tombé, ça va tomber sur un autre. Ça pouvait être un Mexicain, ça pouvait être un Chinois. C'est toujours sur les malheureux qu'on s'en prend. Comme je dis, il n'aurait jamais fait ça dans le quartier des affaires à Manhattan. Il ne se serait jamais permis d'attraper qui que ce soit, de l'étrangler pendant 8 minutes. Là, il s'est permis parce que, justement, il n'a jamais été sanctionné pour ce qu'il faisait. Il a été 18 fois d'affilée, il a eu 18 fois des problèmes. Il a eu des petits blâmes, des petites remontrances, rien d'autre. Donc, il se dit, de toute façon, ces gens-là ne portent pas plainte. Et c'est effectivement, c'est le cas. Donc, on peut y aller, il n'y a pas de suite. Et c'est exactement la même chose et ici.
Alors justement, c'est exactement la même chose ici. Vous pensez qu'on peut comparer cette situation aux États-Unis à celle des banlieues françaises, Patrice Carteron ?
Les banlieues, non, déjà en France, on fait pas ça, d'accord ? On n'est pas aux États-Unis. Maintenant, je vais pas parler des États-Unis, je connais pas le contexte.
Non, venons maintenant à la France.
La police là-bas, elle fait flipper. Déjà, non, je reviens aux États-Unis, pardon, mais les États-Unis, ça fait flipper.
Dès Donald Trump, il vous fait flipper ou pas ?
Pas forcément Trump. Les États-Unis en général, à l'époque de Obama, vous arrivez à l'aéroport, c'est pas la même police. Hein. Ici, les policiers, ils sont sympas. Quand on arrive aux États-Unis, c'est un autre monde. Hein. Vous rigolez pas avec la police. Hein. Jamais vous allez le cracher dessus ou vous allez lui mettre un coup de pression. Hein. Même pas en rêve. Hein. Même pas en rêve. Donc, c'est un autre monde. Il ne faut pas comparer la France et les États-Unis. Maintenant, ce que je dis, c'est que heureusement qu'il y a des vidéos pour filmer, parce que sinon, tout le monde dirait, ouais, c'est de la victimisation.
Alors,
c'est
pas de la victimisation. En France, il y a un projet de loi là, qui a suscité la polémique. C'est Éric Ciotti, le député LR, qui a suggéré, donc, cette proposition de loi, absolument, c'est vrai, hallucinante, d'interdire de filmer les policiers lors d'interpellations. Vous êtes de ce point de vue ?
Il faut qu'ils soient filmés. Il faut qu'eux aussi aient des vidéos. Ils n'ont qu'à mettre des GoPro pour eux aussi prouver qu'ils n'ont rien fait. D'accord ? Parce que souvent, il y en a qui montrent que ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Mais non, il faut justement qu'il y ait ces vidéos. Parce que s'il n'y avait pas eu Internet, comme moi, je ne serais pas là. Parce qu'il y avait toujours les grands du quartier qui parlaient à la place des gens, des autres habitants, comme moi. Pour ça qu'on est étonné quand on entend parler. Et de la même manière, s'il n'y avait pas eu des caméras pour montrer aussi certaines bavures de certains, je veux dire, on ne généralise pas, je ne généralise jamais. S'il n'y avait pas eu ces caméras, tout le monde dirait oh, « c'est pas vrai, ils sont toujours en train de se plaindre ». Et il y a quand même des abus. Regardez ce qui s'est passé à Marseille, le clandestin qui s'est fait jeter à l'eau. Et s'il n'y avait pas eu des caméras, et s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient vu ça, ce pauvre type qui n'a pas les moyens de se défendre, qui n'a pas d'avocat, qui n'a pas quoi que ce soit, personne n'aurait cru ce qui lui est arrivé. Ils ont été sanctionnés grâce aux caméras. Donc, ils n'ont qu'à mettre des caméras pour se protéger eux, parce qu'il y a aussi des mythos qui en rajoutent, et ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, non, il faut absolument que ça soit filmé, de part et d'autre. Voilà, non, moi je ne suis pas pour, savoir son truc, c'est quoi, c'est pour arranger. Parce qu'effectivement, il y a, et je ne généralise jamais, il y a aussi des merdes. Il y a aussi des merdes dans la police, c'est la vérité. On l'a vu avec ce pauvre gars qu'ils ont jeté à l'eau et qui traitait alors le bougnoul dans l'eau. Ça, c'est une vérité. C'est des exceptions, mais il y en a aussi. Donc, tu ne peux pas... Moi, j'aime pas, vous savez, je suis pas dans la victimisation, j'aime pas dire quand les mecs, ils font n'importe quoi, je le dis, quand ils ont brûlé deux policiers qui protégeaient une caméra pour sauver, pour aider les habitants, il n'y a pas de souci, je suis le premier à le dire, c'est crapuleux. Mais de l'autre côté, il y a aussi des crapules, et ces gens-là, non, vive la caméra. Moi, je suis bien content si jamais, bon, j'ai jamais eu de problème de ce genre, hein, je vais pas.
Vous-même, ouais, j'ai envie de dire, vive votre carrière aussi.
Non, c'est pas une question. Pas une... Ah bah non, j'ai déjà été contrôlé par la police, j'ai traîné avec les pires crapules, j'ai été à la cité, donc on était tous ensemble, et en fait, on s'appelait pas crapule, mais on était entre nous. Donc, on a déjà été contrôlé ou quoi que ce soit, mais je peux pas dire qu'on m'a bousculé, fracassé, etc. À partir du moment où je force pas, hein, je forçais pas non plus. Donc, j'en rajoute pas. Mais, dans certaines situations où ça aurait pu déborder, et j'aurais pu être victime, parce que parfois, il y en a qui sont un peu zélés et qui ont envie de se faire un petit négro, et ça, c'est une vérité, ça choque, mais c'est vrai. C'est bien qu'il y ait une caméra, c'est bien, ça calme les ardeurs de certains. Parce qu'il y a des abus, c'est des exceptions, je le dis, il ne faut pas cracher sur la police, mais il y a des exceptions.
Bah oui, parce qu'au sein de la police, il y a aussi des personnes d'origine ethnique.
Il y a une grande majorité de gens, mais même des noirs, différentes. Mais ce n'est pas une question de blanc. Il y a des policiers noirs qui sont des grosses crapules, ou des policiers arabes, ce n'est pas la question. De toute façon, moi, je ne suis pas dans le communautarisme, je ne suis pas dans le racialisme ou tout ce qu'on veut. Je vous dis qu'il y a des merdes, il y en a quelques-uns. Il faut quand même qu'elles soient filmées. Oui, c'est bien. Et de voilà. Mais après, c'est... Non, la caméra, elle est importante. Franchement, elle est bien, la caméra. C'est bien qu'il soit sur Internet. Oui, ça dérange un peu, c'est pas grave.
Donc, Eric Ciotti aurait mieux fait de se taire,
ouais, qu'il se taise, ouais. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, moi, si par exemple, je me plains du jour où ça m'arrive exceptionnellement, vous savez qu'un jour, ah ben d'ailleurs, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Un jour, on faisait une conférence de presse à Paris, aux Galeries Lafayette. Je suis devant avec un drapeau et mon ami. Nous sommes tous les deux, on attend parce qu'on voulait faire une surprise. On se fait contrôler devant tout le monde. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, non, contrôle de police. Je le regarde, je dis, on va à une conférence de presse. Il ne sait pas qui je suis. En fait, j'avais un déguisement, il ne sait pas qui je suis. Il me contrôle, il voit bien, comme si on avait quelque chose à faire, on ne serait pas là comme ça, comme des ploucs, avec un drapeau dans les mains. Il me regarde comme ça, je le regarde, et d'un coup, il y a tous les journalistes, les gens qui sont avec moi, qui viennent filmer. Je dis, bon, bah, ça tombe bien, je vais faire une théo, pour faire une blague. Allez, filmez-moi, parce que... En fait, il était agressif pour rien. Et il a dit, oh, c'est bon. Mais non, mais vous avez besoin de me contrôler, vous ne comprenez pas que je suis en représentation. Allez, on le fait. Finalement, je ne l'ai pas mis sur Internet, parce qu'il y en a qui en jouent trop de ce truc-là pour généraliser sur la police. J'étais tombé sur un con, j'ai failli lui faire le coup, et j'ai dit non, je ne le fais pas. Parce qu'il y en a qui vont s'en servir pour leur business. Mais il y a des cons. Et c'est vrai, ils vivent la caméra. Parce que quand j'ai la caméra, je lui dis, hey, attendez, filmez, je vais faire une théo. Allez. Il s'est calmé, et ça, c'est une vérité. Il y a des cons, faut le dire ça aussi.
Patrice Carteron est notre invité jusqu'à 14h en direct et en live sur les réseaux sociaux, sur Sud Radio. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les incorrectibles sur Sud Radio, toujours en direct jusqu'à 14h avec notre invité Patrice Carteron. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on parle toujours évidemment de ces rapports parfois, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est pas toujours le cas, conflictuel dans les banlieues entre la police et les jeunes, et pas que les plus jeunes d'ailleurs. Alors on a parlé évidemment de ce cas évidemment épouvantable aux États-Unis où la tension ne retombe pas. On va à présent, si vous le voulez bien, Patrice Carteron, revenir sur une des polémiques qui n'a pas manqué de vous faire réagir. D'ailleurs, c'était le week-end dernier déjà, mais alors là, le hasard de l'actualité fait que, évidemment, on en reparle. Les propos de Camilla Jordana sur la police, c'était dans l'émission de Laurent Ruquier, lors d'un échange avec l'écrivain Philippe Besson sur les accusations de violence policière. La chanteuse avait déclaré, je cite, « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. » Alors, lorsque Philippe Besson a évoqué les comportements dangereux de certains manifestants qui contraignent la police parfois à utiliser de la force, elle lui a rétorqué encore une fois, je cite, « Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font, je cite, massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. » Alors, le ministre de l'Intérieur en personne, Christophe Castaner, a réagi dès le lendemain en condamnant sans réserve les propos de Camilla Jordana. Ces propos sont mensongers et honteux. Ils alimentent la haine et la violence, a-t-il dit. Depuis, les réactions s'enchaînent aussi bien dans la classe politique que parmi d'autres artistes et le grand public. Quelle a été votre réaction face à ces propos, Patrice Carton?
Au début, j'ai rigolé. Franchement, c'était tellement du grand n'importe quoi que j'ai rigolé.
Ça méritait même pas qu'on s'y attarde.
Je m'y attardais pas à la base. Je rigolais. Je dis non, mais Camélia, avec mes cheveux frisés, j'ai peur d'arriver en banlieue, tout ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Et puis, le lendemain, j'ai dit non, je peux pas laisser passer ça. Parce que même si personne ne dit rien, si quand on ne dit rien, c'est qu'on consent, c'est qu'on est d'accord avec le truc. Non, moi, je ne me tais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé le CV. Camélia Jordana, fille de patron, transporteur de béton, maman thérapeute, enfance dorée sur la Côte d'Azur. Madame n'a jamais mis les pieds en banlieue sauf pour...
Mais là, vous voulez dire quoi? Qu'elle n'était pas légitime pour s'exprimer sur la banlieue, c'est ça?
En fait, on n'a pas besoin d'être de banlieue pour savoir ce qui se passe en banlieue. Mais en fait, à un moment donné, il ne faut pas raconter tout et n'importe quoi. Donc,
vous voulez dire qu'elle n'a pas vécu directement ce qu'elle dénonce?
Elle ne l'a pas connu. Et en plus, si, quand on ne l'a pas connu, alors... Il y a des chercheurs.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, elle a peut-être le droit d'ouvrir sa gueule pour autant, quand même.
Oui, mais non, mais d'accord, mais en fait, là, c'est des propos du Café du Commerce. En fin de compte, elle n'est pas chercheur, elle n'est pas. Parce que bon, il y a des chercheurs qui vont parler du terrorisme, qui n'ont pas forcément été avec des terroristes, qui vont savoir vous parler des terroristes.
Se ressenti sur le mot massacré.
Maintenant, ce qu'elle raconte, c'est du propos du Café du Commerce. D'où elle sort ses sources, elle n'en a pas, elle raconte n'importe quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas possible. Raconter que tous les matins, des gens se font. En raison de leur couleur massacrée en allant au boulot, non, c'est pas les gens qui vont au boulot le matin qui se font qui ont des problèmes avec la police en allant travailler. D'accord, j'ai été contrôleur, je contrôlais les gens. La France qui se levait tôt, je me levais à 5h du matin. J'étais de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'au Pont-au-Combo. J'ai fait toute l'Île-de-France hein, avec la PTR. Là, je vais vous le dire, en 2004, 2003, toutes les stations de bus. Non, c'est pas cette famille, c'est pas ces gens-là qui ont des problèmes avec la police. Donc, quand on parle de ça, quand on parle de quelque chose, faut avoir un minimum de connaissances.
Si elle était devant vous, Camilla Jordana, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, Patrice Carton?
Je lui ferme là, va faire ta communication sur autre chose. En fait, effectivement, il y a des problèmes, comme je l'ai dit, il y a des problèmes des fois avec la police, etc. Ouais, mais en fait, il faut des propos clairs et vrais. Il ne faut pas en rajouter et dire n'importe quoi. Là, c'est une honte, parce qu'en fait, c'est tout simplement utilisé comme Maxi Blarf, le rappeur, de Meudon la
Forêt. C'est qui Maxi Blarf? C'est Booba, c'est ça?
Qu'on appelle Booba, le baltringue, là, le fils de Madame Borsenberger, ouais, bon. Le fils d'ancien, petit-fils de footballeur et de je ne sais quoi, qui vient nous raconter tous les jours la cité, c'est la misère, en ayant vécu son adolescence sur le col sur loup, etc. On met une casquette à l'envers, on a un faciès d'immigré, ça passe. On peut dire tout et n'importe quoi. Dernièrement.
C'est quoi? Non mais attendez, avec Booba, c'est quoi cette guéguerre que vous menez avec lui depuis plusieurs années maintenant?
Il a voulu...
Vous pensez qu'il incarne ce que vous dénoncez
la base,
le plus
mais il incarne tout ce que je dénonce. C'est un mythomane, c'est des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais mis un pied dans un quartier sauf pour faire des clips. C'est des gens qui ont vécu sur le col sur loup. La baie des milliardaires, Schumacher et compagnie. Il vient parce que sous prétexte qu'il a une tête métissée, un petit peu bronzée, il met une casquette à l'envers et il rentre, ça passe. Mais sa vie n'a rien à voir avec celle que nous, on a vécue. Ma mère, elle faisait la lessive dans la baignoire jusqu'à mes 10 ou 12 ans. D'accord? On n'avait pas d'argent. Les HLM, c'est pas un amusement, c'est pas une campagne publicitaire. Ces gens-là se foutent de notre gueule pour vendre leurs clips, pour faire plaisir. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries. Voilà.
Vous avez été étonné, déçu que Laurent Ruquier ne réagisse pas devant ses propos?
Mais de toute façon, lui, à partir du moment où ça fait du buzz, ça l'intéresse. Lui, il s'en tape, en fait. Moi, je regarde plus son émission depuis fort longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que toujours ça soit de la polémique dans le sens du toujours dans le même sens. En fait, pour dire tout et n'importe quoi. Quand des policiers, ils font une connerie, bah là, c'est sûr qu'on va faire un buzz. Mais quand c'est de contraire, on va pas en parler. Par exemple, 80 personnes ont été sauvées à Grigny au mois de décembre qui allaient brûler dans les appartements à Grigny. Personne n'en a parlé. C'est les mecs de la BAC, les mêmes qui contrôlent la veille, qui sont venus les sauver, qui ont évité un incendie. On n'en parle pas. Donc c'est toujours du buzz dans un sens et pas dans l'autre. Donc moi, ça me gave, tous ces trucs-là.
Vous pensez qu'elle a cherché à faire le buzz, ouais,
mais bien sûr, c'est que du buzz. Tous Camille ces gens-là, Jordan, ils savent très bien ce qui... Ils savent très bien qu'il y a un bon fonds de commerce, que c'est pas risqué. Donc ils viennent, ils font
ce qu'ils veulent. Il y a quand même une partie de la classe politique des artistes, comme la chanteuse star belge Angèle et du public, hein, qui lui ont apporté un soutien, et ça il faut le reconnaître, sur les réseaux sociaux. Vous êtes quand même favorable à un vrai débat public sur le sujet des violences policières et du racisme au sein des forces de l'ordre ? On a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on parle de...
Mais Angèle, c'est qui elle ? C'est la même caste ? C'est des filles de qui ? Filles de grands comiques, filles de grands comiques en Belgique, etc. Là, ça y est, elle fait un peu hip-hop, elle s'invente une vie. C'est qui, elle ? C'est qui ? Qu'est-ce qu'elle connaît de la banlieue ? Qu'est-ce qu'elle a foutu là-bas ? Elle a fait des recherches, elle est chercheuse, elle est sociologue, elle fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle sait ? Moi, je vous parle de ça parce que je l'ai vécu. Sinon, j'ai aucune crédibilité, vous parlez de ce qui se passe dans le 16e. À moins que j'ai fait des études sur ça. Quelle étude elle a faite ? De quoi elle parle ? Tout ça, c'est pour quoi faire ? Pour buzzer ? Mais buzzer sur autre chose. Raconte tes chansons de merde et on s'en fout. Moi, ça me pose pas de problème, mais t'invente pas de vie, ne raconte pas de conneries. Moi, je vais pas vous expliquer comment ça se passe dans le 16. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas fait d'études pour ça, donc je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Ces gens-là me gavent.
Et la proposition d'un débat, là, face à Christophe Castaner
Non, mais moi, je vais... C'est comme si moi je vais débattre avec un médecin. Putain, merde, t'as pas ton BEP, tu veux parler avec un médecin. En fait, c'est bon, c'est pas crédible, en fait. Parle de ce que... De quoi tu parles ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait pour pouvoir parler ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi ton bagou ? Qu'est-ce que tu connais ?
Patrice Carteron, vous pensez pas qu'au-delà, évidemment, de la personne, il y a quand même une difficulté de parler de ces sujets, comme de la violence... de certains contrôles de police, de certaines bavures. Est-ce que vous pensez pas que c'est un sujet tellement sensible aujourd'hui qu'on ne peut plus du tout l'aborder sans être taxé de...
Non, bien sûr qu'on en parle. Moi, j'en parle. Je vous dis texto quand, par exemple, je pensais à l'époque Théo. Qu'est-ce que je disais ? Je pensais à l'époque, j'étais le premier à croire qu'il avait été violé. J'ai dit c'est des textes étrangers, c'est de la merde.
Donc on rappelle la situation, Théo.
Qui avait dit qu'il s'était fait violer lors d'un contrôle de police, etc. Ça avait déclenché des émeutes, etc. Finalement, très peu l'ont dit. J'ai vu les vidéos et c'est pour ça que je suis pour la vidéo dans un sens comme dans l'autre. On s'est bien rendu compte qu'il s'est fait violer par personne. Il avait dit qu'on lui avait baissé le pantalon, qu'on l'avait violé. C'est pas la même chose qui s'est passé. Ça peut être un accident, ça peut être autre chose. Ça peut être que personne n'avait tenté de baisser son pantalon. On lui a pas baissé son pantalon. La vidéo, elle a prouvé. Donc les vidéos, c'est bien dans un sens comme dans l'autre. Il faut avoir des propos équilibrés et pas travailler par caste ou par bande. Là, c'est la bande des artistes. Alors on soutient pour soutenir. Ah ouais, comme c'est ma copine Camélia, ben je vais la défendre. Je vais défendre l'indéfendable. Donc mon pote, c'est un boxeur. Demain, il est dans Daesh. Sous-entendu, comme c'est un boxeur, je vais lui trouver des excuses. Qu'est-ce que c'est que ce connerie ? Voilà ce qui m'énerve. En fait, il n'y a pas. C'est à géométrie variable. C'est en fonction de mes amitiés. Je suis désolé, je peux être ami avec toi. Demain, t'es pédophile, je te parle pas. En fait, je vais pas te défendre. Ils défendent l'indéfendable. Ils disent n'importe quoi. Ils parlent pour rien dire. Des milliards de gens qui se font tabasser en allant bosser le matin. Mais viens dans n'importe quelle cité à 8h du matin. C'est la France qui se lève très très tôt. Pour aller faire le ménage, pour aller sauver pendant le coronavirus, c'est cette France-là qu'on voit. C'est tous ces gens qu'on respecte pas en ce moment, qui galèrent, etc., pour 1 200 € et qui payent des nourrices. C'est ça la réalité. Donc c'est pas des voyous. Les voyous, ils se lèvent à 14h.
Alors c'est vrai, on peut pas nier que de l'autre côté, hein, certains citoyens ne respectent plus du tout les forces de l'ordre. Certaines cités sont devenues des zones de non-droit. Qui est responsable de cette situation selon vous, Patrice Carteron?
J'avais vu un reportage dans les années 80 qui revient des années 80. François c'était deux architectes. Il y avait un architecte qui disait: putain, tu te rends compte, François, on a et donc il construisait des cités. À l'époque, les débuts des cités, il les construisait dans deux endroits. Il disait, là où je suis, on est à moins de 3% de Front National. Le Front National était nouveau. Hein. Et dans l'autre cité, parce qu'ils l'ont mal faite, on dirait une prison, on a 10%. Il a dit son carnet de commandes 2 ans plus tard, il a baissé. Celui qui faisait les cités, moins truc. Donc, on a fait une concentration de misère, de dingue, et c'est fait exprès. Aujourd'hui, ça explose. Donc, on le savait très bien depuis les années 80. Donc, tout ça, c'est des conséquences. Qu'est-ce qu'on va faire en mettant 35 personnes en difficulté au même endroit? Si on les avait divisées, ces collèges au milieu du quartier où déjà il y a toutes les merdes possibles et imaginables, 35 élèves, 29 qui sont en difficulté, comment un prof peut faire un bon boulot là-dedans?
Toutes ces merdes, vous parlez du deal,
tous les problèmes, la violence, les familles monoparentales, les difficultés, le deal, tout ce qui s'ensuit, tout est concentré au même endroit. Il n'y a pas de trucs. Les gens n'ont pas, Donc après, il y en a un ou deux qui s'en sortent. Mais c'est ça la réalité des trucs. Un taux d'échec scolaire, je vais vous parler de moi ce que je connais, Grigny. Un taux d'échec scolaire bien plus, le plus haut du département. Un élève sur deux, entre 19 et 25 ans, n'a pas de diplôme. Zéro diplôme. Même pas pour passer le balai. Pas de diplôme. Un taux d'alphabétisation. On a des enfants qui ne savent pas lire en sixième. On est trois fois au-delà de la moyenne nationale. Donc vous comprenez bien que si des gens ont des problèmes de compréhension de la lecture, comment vous allez leur expliquer confinement, je sais pas quoi. Tout ça, les gens ne le voient pas. Moi, je le connais, je sais de quoi je parle. Donc il y a beaucoup. Nous, on a une concentration de problèmes que les gens n'imaginent pas. Et ça, c'est une réalité. C'est ce que je vis au quotidien. Moi, j'ai des gens, ils me répondent à des trucs. Je dis mais pourquoi elle comprend pas ce que je dis, parce que j'ai un peu oublié. Et puis finalement, elle me dit oui, mais elle est bien française. Hein. Blonde, mais elle a des problèmes de lecture, elle ne sait pas lire. Et j'ai compris pourquoi elle ne pouvait pas me répondre à certaines choses.
Patrice Carton, on va poursuivre cette discussion. Vous restez avec nous. Les Incorrectibles sont de retour dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, il est 13h30, nous sommes toujours en direct jusqu'à 14h avec notre invité Patrice Carteron pour évoquer, alors le hasard de l'actualité fait qu'évidemment on parle beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis, outre-Atlantique, suite à ce meurtre, hein, même vous le qualifiez de meurtre,
hein,
de ce noir après son interpellation, et puis on parle évidemment par la force des choses aussi de ce qui se passe plus près de chez nous dans les banlieues françaises. Alors c'est vrai que ce débat il est toujours extrêmement sensible. Opposer en permanence les jeunes des quartiers sensibles et la police, est-ce que ça renforce la haine selon vous, Patrice Carteron ?
Bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est des propos équilibrés. Dire quand ça va pas et dire quand ça va. Et dire ce qui ne va pas et faire des choses. Le problème, c'est qu'on est tout le temps en train, par exemple, de parler par caste ou par bande. Quand Théo, il ment, ben il ment. Quand un policier va faire un truc, je ne vais pas dire « ouais, il ne l'a pas fait ». Quand il y a des preuves, il y a des preuves. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Par exemple, il y a plein d'affaires très sensibles où il y a eu des décès. Moi, je ne m'exprime pas dessus. Laissons la justice faire son travail.
Il y a plein de choses qu'on ne voit pas.
Il y a des choses qu'on ne voit pas, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un avis tranché.
Mais vous pensez qu'il y en a beaucoup de choses qu'on ne voit pas ?
Ah ben bien sûr, mais je vous dis, la caméra, c'est une belle chose et heureusement qu'elle est là. Parce qu'elle montre ce qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, moi, j'aurais dit ça il y a 10 ans, 15 ans. Ouais, il en rajoute, il est en train de faire son truc. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont vraiment victimes et qui ont des problèmes. Quand je vous dis, quand on est dans la HLM, c'est pas la même chose de vivre le confinement dans la cité et vivre le confinement dans le 16e. Regardez le deux poids, deux mesures à la télé. C'est une insulte. On nous a pété. Il y a eu un match de foot. Ah, 300 jeunes sur un terrain de foot. Déjà, à mon œil, 300, d'accord ? Je sais pas comment elle les a comptés, les 300, d'accord ? Ensuite. De l'autre côté, on a eu le quai hier, là, les quais de Seine, blindés de petits bobos, blindés. Oh, et puis le gars, il arrive avec sa casquette tranquillement, et puis il est filmé pour dire non, mais il fait un peu chaud, et puis ceci et cela. Donc on les touche pas parce qu'on sait que ces gens-là, si malheur, on les touche, ils vont directement les mettre en justice. On sait qu'avec les petits jeunes de cité, à part gueuler ou répondre, ils vont rien pouvoir faire. Donc on tape dessus. Moi, j'aime pas ce genre de deux poids, deux mesures. Donc la cité, on n'oublie pas, hein, tous ces gens qui sont venus, c'est les banlieusards qui sont venus aider les gens, les bobos parisiens là, qui applaudissaient par la fenêtre. C'est ma maman qui était soignante à l'époque. C'est des gens comme ça qui sont allés, pendant le Covid-19, pendant qu'ils se protégeaient, qui allaient nettoyer, faire attention pour que cette pandémie s'arrête. D'accord ? Donc j'en ai marre j'aime pas quand on tape. Quand les propos ne sont pas équilibrés. Quand c'est eux, il n'y a pas de problème. Allez, s'il vous plaît, vous sortez d'ici. Quand c'est la cité, bah, dégagez, voilà. Et c'est exactement la même chose. Là, c'était pas 300. Combien ils étaient là ? Ils n'ont pas dit le nombre. Ils étaient combien sur les quais,
sur les quais, ouais.
Ils étaient combien sur les quais ? Ils étaient des milliers. C'est du foutage de gueule. Hein ? C'est du foutage de gueule.
Alors, Patrice Carteron, c'est vrai qu'on dénonce beaucoup, mais selon vous, alors, les solutions, parlons un peu de ces solutions. Comment rétablir le dialogue entre jeunes de banlieue et policiers ? Qu'est-ce que vous recommanderiez ?
Redonner la confiance aux gens. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, avoir des propos équilibrés. Ne pas défendre l'indéfendable, parce qu'aussi dans la cité, il y en a qui défendent l'indéfendable, qui passent leur temps à ça. Une minorité, d'accord ?
C'est quoi pour vous l'indéfendable ?
Quand des policiers se font brûler, etc., des gestes disproportionnés de certains, etc. Mais avant ça, donner des solutions aux gens, aider les gens à trouver du travail, ouvrir ces putains de collèges, arrêter d'ouvrir des collèges où il y a 900 personnes en difficulté. Qu'est-ce qu'un prof, il va faire avec 35 personnes en difficulté? Moi, prof de boxe, j'en prends 4-5, j'arrive à les former, on m'en met 35 gogoles, j'aurai beaucoup plus, ça sera beaucoup plus compliqué de les rendre bons boxeurs. Et c'est logique pour tout. Désenclaver, ça fait longtemps que ça avait été fait. Depuis les années 80, dès lors où ils ont organisé ces cités dortoirs, ils le savaient. Ils le savaient. Et c'est toujours la même chose. Et on le sait. Et on nous fait nos baratins. Et puis on casse un bâtiment de temps en temps. Et puis les gens, ils sortent la larmichette. Mais c'est quoi ça? C'est pas ça que les gens, ils demandent. Les gens, ils demandent un soutien, un minimum. Ils sont dans la merde phénoménale. Le confinement, pendant le confinement, là, il y a des gens, on a vu, qui ne faisaient qu'un repas par jour grâce à la cantine. Moi, j'ai des gamins que j'emmène avec moi, j'ai gardé des denrées alimentaires pour eux, je sortais des pommes, ils font « des pommes !» Mon fils est à côté, il n'avait pas l'habitude de ce que je fais côtoyer pour qu'il sache d'où je viens. Il était là et je lui dis « tu comprends ?» Il était choqué parce que pour lui, des pommes, c'est quoi ? Ouais, il y a des gens, des pommes, ils étaient contents de les voir. Plein de bobos sur le visage, ils étaient heureux. Donc les gens, ils sont hors sujet. Ils ne savent pas que c'est la population la plus fragile. Et le premier qui leur donnera du pain, c'est pas l'État qui fait. Et ben c'est d'autres qui vont les prendre. Et d'où les djihadistes et ceci et cela qui viennent et qui ont juste à se servir.
Alors on va y venir. J'aimerais qu'on vienne aussi sur un autre fait qui avait déclenché nombre de polémiques. C'était la mort de Sabri Choubi, décédé à l'âge de 18 ans dans un accident de moto à Argenteuil, qui avait de nouveau jeté l'ombre sur la police, soupçonné d'être responsable de l'accident. Alors une marche blanche avait été organisée dans le calme après plusieurs nuits d'échafourées. Quelle avait été votre réaction là aussi?
Honnêtement, je ne connais pas l'histoire. Donc vous voyez, quand je connais pas un truc, je vais pas vous raconter des histoires fantastiques. Je sais qu'il y a un jeune qui est décédé en moto. Pas de casque, etc., etc. Comme j'ai toujours dit aux gens autour de moi...
Une enquête qui est en cours.
Quand on a un accident en moto, je préfère que vous soyez mort que vivant. Parce que dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes vivant, c'est chaud. Moi, j'étais à l'hôpital de Garches pendant des années, voire 80% des gens qui étaient là, c'est pour des accidents de moto. Le jour que les gens vont comprendre que la moto, c'est extrêmement dangereux, hein, je ne parle pas que dans la cité, etc., qu'il faut mettre un casque, etc., etc., ça arrangera beaucoup de choses. Et même avec le casque, je préfère mourir avoir un accident de moto, parce que 80% des cas, c'est des situations, quand on parle de blessures, c'est des situations très très graves. Donc après, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, je peux pas juger le truc comme ça. En plus, c'est la mort de quelqu'un, je ne sais pas, je vais pas parler, j'aime pas les gens qui... Je fais pas du Jordana, je vous parle pas d'un truc que je ne connais pas, je connais même pas l'histoire.
Alors certains politiques, c'est vrai, de manière générale, vont parfois jusqu'à qualifier certains jeunes de racailles, de colons même. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque?
Écoutez, les gros mots, c'est de part et d'autre, on peut se les dire, ça dépend à qui on parle. Maintenant, qu'on ne fasse pas des généralités. D'accord ? Si on fait des généralités, moi aussi, j'étais un jeune de là-bas, je ne suis pas un colon, je ne suis pas une racaille, je ne suis pas ceci.
Parce qu'il y a des gens bien.
Le problème, c'est toujours pareil, les gens généralisent. C'est comme moi, quand je vais dire, par exemple, je vais critiquer un fait sur une banlieue, on va dire, ah, il est contre les banlieusards. Je ne suis pas un contre les banlieusards, je passe ma vie en banlieue. Je vis en banlieue, je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est qu'on généralise. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est les généralités.
Enfin, il y a quand même des généralités parfois qui, en effet, vous le dites, sont généralisées ou en tout cas qui permettent...
Que les gens...
Regardez le film Les Misérables, par exemple, ouais, de Ladjili. Vous l'avez vu?
Je ne l'ai pas vu, non.
Ah, vous ne l'avez pas vu? Qui dépeint une bavure de la bague dans une cité de Montfermeil et ses conséquences. Il remporte le César du meilleur film de l'année et il est nommé aux Oscars. Ça vous inspire quoi? Donc, vous ne l'avez pas vu?
Honnêtement, je n'ai pas...
Vous n'avez pas eu envie d'aller le voir?
Ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cité, je la connais. Et j'aime pas les histoires de cités orientées. Comprenez? Alors, il a peut-être raconté certaines choses, mais si c'est pour raconter que les policiers sont méchants, etc., etc., ouais, il y a des policiers méchants. Mais moi, j'aime bien aussi les crapules qu'il y a dans la cité aussi. Moi, j'aime bien les trucs équilibrés. J'aime pas qu'on est en train de me dire... j'aime pas les trucs où c'est... on est tous des salauds, nous, on est des gentils. D'accord? Les premiers qui font la misère dans la cité, c'est pas eux. C'est les dealers de shit. C'est les dealers de shit, c'est les voleurs. On se fait cambrioler par les propres gens de notre propre quartier. On se fait brûler les voitures, c'est pas par la police. Donc il y a plein de choses qu'il faut aussi remettre dans l'ordre. Et en fait, ça me gave de regarder ces films. En fait, ce film, moi, je le connais, c'est le film de ma vie. Les émeutes, je connais. Les gens, les morts, j'en ai vu. Des copains, moi, qui ont été tués par. Il y a eu des morts violentes, je les ai vus. Des gens qui ont été butés, je les ai vus. J'ai vu, malheureusement, ouais. Ouais, j'ai vu. Donc j'ai pas besoin de lui pour voir son film. Donc c'est bien, ça va intéresser quelques trucs. À ce qui paraît, il était bien. Bien pour lui, c'est bien. Mais en fait, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas besoin de lui pour savoir ce que c'est qu'une cité.
Alors il est impératif, hein, vous le dites, hein, de donner une image plus réaliste quand même et plus positive de la banlieue via l'art, le sport, montrer les initiatives solidaires, hein, comme vous l'avez publié sur Facebook au sujet de jeunes qui sont venus en aide à des pompiers. Vous pensez aussi que les médias ont une responsabilité, et là j'y prends ma part, hein, puisque on en parle, c'est vrai que quand ça va mal, mais pas beaucoup quand ça va bien.
On donne ce qui fait vendre en fait. Hein, on parle de ce qui fait vendre, ça fait pas vendre si on explique des initiatives populaires pour faire sortir des enfants.
On parle pas des trains qui arrivent à l'heure.
On parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On parle pas d'associations comme celle de mon copain Greenwood, Omar, qui ramène des jeunes du quartier, qui les fait venir aller à New York pour chanter. Prétexte de chanter pour aussi leur apprendre aussi à parler, à s'exprimer, à sortir un peu du quartier. Moi, j'ai jamais eu cette chance.
Mais excusez-moi, cette image que vous dénoncez, est-ce que vous pensez pas que vous l'entretenez là? Je vais être un peu provoque avec Booba, là, quand vous prenez la tête sur Insta, sur les réseaux sociaux.
Justement, je vais à l'encontre de...
Participez pas à donner une image très sage des rapports dans les banlieues quand même, Patrice Carton.
Parce que les rapports, ils sont violents, des trucs, il faut mettre sa montre à l'heure. Quand on parle avec un agneau, on se met avec un agneau. Quand on est avec un loup, on parle comme un loup.
Donc vous considérez que c'est pas un agneau.
Quand on est avec une baltringue, faut se mettre à la
fois. Non, mais vous me disiez qu'il était issu des beaux quartiers. Donc c'est un agneau ou c'est un loup?
Mais c'est un agneau qui veut s'inventer une vie. Donc je suis obligé de remettre les choses à leur place. Je suis obligé de dire à mon pote, je vais remettre la bandule. La vie de cité, je la connais. Toi, tu la connais pas. Sous merde. Ce que j'ai vécu, c'était pas ton vécu de merde. Moi, je faisais pas des clips pour quand je te mets une droite, c'est pas 2 jours d'ITT, c'est 30 jours minimum. En fait, des gens à terre, j'en ai mis des milliers.
Ouais, mais là, vous répondez à la violence par la violence, quoi.
Je m'entends.
La violence des mots par.
En fait, on n'est pas dans le 16. C'est vrai qu'on communique. Nous, on n'a pas appris à communiquer, on communique différemment. C'est pas bien, je suis d'accord avec vous. J'ai appris à communiquer par les mots, mais je sais aussi répondre. En fait, faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Si vous venez.
Mais vous répondez à l'agression par l'agression.
Bah ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais vous parlez pas de ce que vous connaissez pas en fait. Quand je suis dans le quartier, en fait, il y a un moment
donné. Donc il y a d'autres règles dans les banlieues.
Il y a d'autres règles. Ouais, faut se mettre la montre à l'heure. En fait, il y a des gens. Si je laisse passer une fois, ça passera pas deux fois. Malheureusement, il y a des gens.
Et ça veut dire qu'il faut se faire justice soi-même.
Ben, quand vous voyez que la police est en sous-effectif, ne fait pas son taf, etc., et que vous avez.
Et vous êtes champion du monde de boxe time. Alors est-ce que vous comprenez comment? Ouais, mais vous pouvez peut-être vous le permettre. Et encore une fois, je cautionne pas du tout. Je dénonce même absolument. Mais les gens qui se font agresser, qui n'ont pas votre carrure, comment ils font?
C'est pas la taille qui fait le comportement. Vous savez, il y a des gens qui mon associé qui est dans ma salle, il fait 1m72, hein, il sait ce que il a adopté un comportement. C'est en fait, faut savoir adopter son comportement.
Vous allez me dire qu'il a des guns, non?
Non, pas du tout. Non, figurez-vous, il a un beau palmarès. Il a été champion du monde de boxe, mais il fait 1m72. Il est qu'est-ce que je dis? Pardon, excuse-moi, Quider, Monsieur Ougbi, il est aujourd'hui vice-président. Il était vice-président de la communauté d'agglomération, donc c'est quelqu'un d'inséré. Il a été conseiller municipal, etc. Donc il est ingénieur.
Non, mais c'est quand même un peu contradictoire. Excusez-moi, Patrice Carton, parce que vous dites, faut respecter les règles de la République, mais là vous dites quand ça va trop loin avec vous personnellement, ça y va même physiquement, quoi.
En fait, il y a pas. Ouais, mais moi, après c'est moi. Je n'invite pas les gens à être comme moi. Mais je vous dis.
Ah, c'est bien, vous le reconnaissez.
Bien sûr, je ne vous dis pas que j'ai raison. Je vous dis que c'est ma manière de fonctionner, je suis né comme ça, je ne vais pas vous inventer une vie, je ne vais pas vous dire que je suis peace and love et vive la vie. Moi, en fait, tu me casses les couilles, je vais régler le problème. Tu as vu, je vais te parler une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas passer. Je m'en bats les couilles. Et en fait, les gens, faut qu'ils le savent. En fait, je ne vais pas me laisser mettre à l'amende, en fait, je ne suis pas une pute. Voilà, c'est clair, pardon.
Bon, bah, moi, ça a le mérite d'être clair.
Ah ouais, il n'y a pas de baratin. Là.
Un mot de l'islam, parce qu'on ne peut pas non plus s'empêcher de parler aussi de ce sujet, qui est souvent associé aux banlieues. Voilà. Ouais, est-ce que ouais, dites-moi.
L'islam est une belle religion, mais comme je vous dis, malheureusement, il y a des gens qui s'en servent pour faire leur business.
C'est bien cette mise au point là que vous faites, parce que très souvent on vous a suspecté d'être anti-islam.
Mais c'est pas ça, c'est parce qu'on veut refroidir le débat. Les gens ne veulent pas entendre que ce qu'ils veulent entendre. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, Charlie Hebdo, quand j'ai dit je soutenais le fait que j'ai soutenu Charlie Hebdo sur le fait qu'on ne tue pas des gens. Par rapport, on ne tue pas les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous ou parce qu'ils ont fait des caricatures. Par contre, les caricatures contre le prophète, que ça soit pour un rabbin ou un truc, etc., c'est dégueulasse, ça ne se faisait pas. Et ça, ce qu'il faisait, ça fait longtemps que je n'aime pas Charlie Hebdo pour ça. Mais il ne méritait pas qu'Abu, que je voyais dans le club Dorothée, se faire assassiner. Ces mecs-là méritaient un procès ou quoi que ce soit, mais on ne les tue pas. Point barre. Il aurait pris une baffe à la rigueur. Ils auraient pris une baffe à la rigueur, ça aurait été moins grave. Ils les ont tués. Et c'est ça le problème. Ils sont partis à l'hypercachère. Qu'est-ce que l'hypercachère? Qu'est-ce que les juifs, pratiquants, qui savent qu'il faut respecter les trucs, avaient à voir là-dedans? Qu'est-ce que la policière municipale avait à voir là-dedans? Et les gens comme ils veulent pas entendre et qu'ils veulent pas et qu'ils veulent mettre tout le monde dans le même truc, ils disent ah regardez il est anti-musulman, mais c'est anti-musulman de quoi ? Les musulmans etc en général personne ne justifie ça, mais il y a des gens qui veulent bloquer la parole pour que tout le monde soit dans le même panier, on suit.
Vous êtes un laïc.
Voilà.
Vous êtes un laïc.
On est né en France, en fait, j'ai appris la laïcité. En fait, j'ai jamais vu mon prof me dire au nom de Jésus, on fait ceci ou cela. Donc moi, je suis pour la laïcité, point barre.
Et vous êtes plutôt d'accord, par exemple, avec l'initiative de, je sais pas, de Michel Onfray, là, de Front Populaire, qui va créer une revue, qui va rassembler des gens.
Je vais pas me mettre au niveau de Michel Onfray, un mec qui a un niveau, c'est quelqu'un. Vous voyez, il faut savoir. C'est toujours le problème, c'est qu'ils savent pas rester à leur place. D'accord, moi, je suis un sportif qui donne mon avis sur ça. Michel Onfray, je l'écoute. Comme j'écouterais Zemmour ou n'importe qui, c'est des idéologues, ils ont un cerveau, ils sont un truc, ils sont aptes à faire.
Vous êtes plutôt d'accord avec eux ?
Il y a des fois où ils disent des vérités, comme tout le monde peut dire des vérités. Comme par exemple, tiens, Marine Le Pen, quand elle avait dit qu'il fallait fermer les frontières, eh ben on les a fermées les frontières ! Finalement, au mois de novembre, on lui disait que ça ne servait à rien. Finalement, on s'est bien rendu compte qu'il fallait bien les fermer, on les a fermées. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas Front National ou quoi que ce soit, je ne vais pas dire que c'est faux. C'est tout. Donc tout le monde peut dire des vérités. Et le problème, c'est que en fonction
entre Marine Le Pen et Macron en 2022, vous choisissez ?
Je choisis ni l'un ni l'autre. En fait, je vote pas. En fait, excusez-moi. Si. J'ai vu le deuxième tour et le débat Marine Le Pen. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu un grand moment de solitude. Et les Français, dans la grande généralité, on a compris que. Dénoncer, c'est une chose. Avoir un projet pour l'avenir, c'est autre chose. Et moi, je vous dire que ce jour-là, s'il y avait eu un doute, ce jour-là, j'ai pleuré. Et je pense qu'elle devrait laisser sa place à quelqu'un. Malheureusement, c'est chaud.
À Marion ?
Ah, j'en sais rien. Mais j'ai pas vu ce qu'elle vaut en projet. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était le café du commerce. C'est Carteron qui parle avec Macron. J'avais honte pour elle. Et les Français, en général, le lendemain, on a oublié. Ils rigolaient tous. On rigolait tous.
Patrice Carteron, il est 13h45 bientôt sur Sud Radio, dans Les Incorrectibles, toujours en direct et sur les réseaux sociaux également. Restez avec nous, on revient dans un instant pour la dernière partie. Et oui, déjà de l'émission, à tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct jusqu'à 14h avec notre invité ce dimanche, c'est Patrice Carteron, une actualité chargée. On a parlé évidemment donc des événements outre-Atlantique aux États-Unis, des banlieues en France. Alors on va, si vous le voulez bien aussi quand même, Patrice Carteron, dire quelques mots sur cette crise sanitaire que nous traversons et qui affecte le monde entier. Quel est votre regard sur la façon dont notre gouvernement a géré cette crise d'abord, Patrice Carteron ? Il y a eu des mensonges selon vous ?
C'est plus que des mensonges, une impréparation de malades, pas de masque, pas de gel. On a été livraison de masques le 2 avril.
Ça vous a choqué quand le président a dit « Mais si, on avait des masques
». Non, mais en fait, c'était mensonge sur mensonge. Agnès Buzyn était au courant de la crise sanitaire depuis fort longtemps. J'étais avec un taxi, là, tout à l'heure, qui m'expliquait. Vous voyez, les gens qui sont sur le terrain, vous voyez, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Il me disait, moi, que quand il avait des... Tout le monde rigolait quand il ne voulait pas... et c'est un maghrébin, pour qu'il sache. Il ne voulait pas prendre les ressortissants chinois. Il avait peur de les prendre quand... Ah ouais. Ça peut passer pour du racisme. Quand il était à l'aéroport, il avait peur. Et il demandait quand même, il les prenait... Et puis il leur demandait, est-ce qu'il y a eu des contrôles ou quoi que ce soit, même une attestation sur l'honneur, vous n'avez pas le coronavirus. On me dit non, il n'y a rien, il n'y a eu aucun contrôle, il y a quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est une impréparation de malades. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les autres pays comme l'Allemagne, nous sommes les champions d'Europe. Hein, c'est nous qui avons le plus de moyens en termes de santé en Europe.
Ah, mais ce confinement, on ne pouvait pas y échapper.
Ce confinement, on aurait pu l'éviter, bien sûr. Bah, qu'est-ce qui a changé depuis le déconfinement ? C'est qu'on a des masques, des gels, et tiens, en fait, on avait juste ça, là. Tiens, j'ai ramené exprès parce que c'était trop. Oh là là, parce que apparemment, c'est un truc qu'il fallait. Quand il parlait du masque, j'avais l'impression que c'était un truc en matière kryptonite et je ne sais quoi. Et ça, ça suffisait. Hein. On aurait ça, du putain de gel. Ça, du gel. Et truc, c'est ce qu'on fait là maintenant. Si on avait anticipé, testé la population, fait des trucs, c'est ce que le professeur Raoult a fait. Si on avait testé les gens, vérifié, fait des trucs, etc., on n'aurait pas été obligé de tout fermer. Moi, le taxi, là, qu'est-ce qu'il a fait pour me ramener
On le dit juste pour les auditeurs, hein, vous avez montré une visière. Hein, vous avez mis une visière.
Ouais, une visière
hein, donc c'était, tiens, pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous voient pas forcément,
visière,
c'était
peux
pour
parler,
vous.
On
voilà.
m'entend. Ouais.
On vous entend un peu moins bien, mais on vous
on
voit.
On m'entend moins bien. Mais en tout cas, je ne peux pas vous envoyer mes questions.
Donc c'était une visière que vous mettiez pour les auditeurs. Alors parlons un peu, justement, Didier Raoult. Là-dessus, vous avez eu envie d'en parler aussi. Alors là, vous m'avez dit, je veux en parler. Et pourtant, là aussi, vous n'êtes pas médecin.
Mais je me suis renseigné et je regarde, moi, je suis cartésien, je crois ce que je vois. D'accord ? Alors, Raoult, CV, Grand Prix de l'INSERM, c'est l'un des chercheurs les plus cités, infectiologue. Il est l'un des chercheurs les plus cités dans le monde. D'accord, français, on pourrait être fier. Hein. Le mec, il arrive, il nous sort l'hydroxychloroquine.
Il a l'air de le savoir parce qu'il le répète souvent.
Il est arrivé. Non, mais. Et,
il ne joue pas dans la même cour que la plupart.
Mais attendez, mais c'est
vrai. On dirait qu'il parle comme un boxeur.
C'est une vérité, c'est la formation. Mais attends, mais tu ne vas pas m'apprendre que je suis dans un cours, hein, sur un ring. Ouais. C'est pareil, en fait. C'est une insulte. Comme les mecs qui parlent, etc., c'est la même chose. Donc là, c'est encore pire. C'est un infectiologue de haut niveau. C'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier, dans le monde. Il nous parle d'hydroxychloroquine, un truc qui était qu'on pouvait toucher en boutique depuis le mois de janvier, comme par hasard, c'est devenu un truc qui va nous rendre malade, qui va nous tuer. Il l'utilise en Algérie, au Maroc, en Russie. Les Américains l'utilisent, tout le monde l'utilise. Et si on nous dit que ça ne marche pas, que c'est de la merde, que c'est que ceci, que cela, c'est du baratin. Moi, c'est mon avis, c'est du baratin. Il y a des intérêts économiques. Lui, il fait chier avec son médicament à 10 centimes. On peut pas en faire, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et il a testé la population. On nous a dit qu'il pouvait pas faire les tests. Ah bon, ben, avec un peu de préparation. Nous, on sommes les numéro 1 à Marseille. Nous sommes aujourd'hui. Ils ont testé plus de 2,5% de dépistage. Soit plus de 3 000 personnes par semaine, 25 000 personnes par semaine. Non, en fait, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres, excusez-moi. En fait, on est numéro 1, on est devant les Allemands à Marseille. Donc, il a testé,
mais vous savez bien qu'il y a toujours là-dessus débat sur les personnes testées.
Moi, je ne suis pas dans le débat de ceci, de cela. Concrètement, il y a 0,7% de décès en Marseille. Et concrètement, ici, pour pouvoir dire, débattre, etc., pourquoi on n'a pas fait les tests? Pourquoi à Marseille, le professeur Raoult, il a réussi à faire des tests? Pourquoi ici, Patrick Caram, vice-président de la communauté de la région, pardon, Île-de-France, qui a démissionné pour cette raison, il a essayé d'avoir des masques, etc. Il a essayé, via les commerçants d'Aubervilliers qui avaient des rapports avec les Chinois, pour pouvoir... Pourquoi on l'a bloqué, on l'a interdit de ramener des masques? Il a porté plainte, il a démissionné pour ne pas mettre... pour ne pas rendre complice Madame Pécresse. On l'a débouté de son truc. On a dit que tout s'était bien passé, alors qu'il y a des directeurs d'EHPAD qui ont expliqué qu'on n'avait pas assez d'aspirateurs. Il avait demandé des masques, des respirateurs en urgence, etc. Pourquoi M. Caram, il a dû... C'est un mec courageux, je le respecte vraiment. Le mec, il a laissé son boulot, il a laissé la vice-présidence, parce qu'il a dit que
Comment ça s'appelle le nom du virus?
Non, non, l'administrateur des hôpitaux de Paris, là. Comment ça s'appelle, là? Le RAS, le... Oh,
bon,
là,
enfin, on a
bref,
compris, en tout
on
cas.
A compris. Que... En tout cas, eux, là, ils devaient gérer. C'est eux qui géraient l'administration, etc. C'est eux qui auraient dû faire tout ça. On n'a rien eu de tout ça.
Et
c'est
pas ça. Jérôme Salomon, peut-être, non?
Non, je retrouverai le nom. Bon. Et donc, on a rien eu de tout ça. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on a eu un confinement qui a servi à pallier au problème qu'il y
avait.
Vous
avez peur d'une seconde vague ou pas, vous, Patrice Carton?
J'en sais rien, on n'est pas médecin. Mais bon, je préfère écouter le professeur Raoult, écouter, en fait, des journalistes, des Michel Simès, médecins généralistes et je ne sais quoi, qui vont parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Comprenez? Je fais de la boxe thaï, je connais la boxe française, mais je connais pas la boxe anglaise. Comprenez? Et les gens, ils étaient là en train de nous dire que c'était une grippette. Moi, j'ai cru que c'était une grippette. Je l'ai dit sur Internet. Elle dit, arrêtez de paniquer, il n'y a rien. Parce que j'écoute pas les propos du café du commerce. J'écoutais des infectiologues sur ses dents l'air, etc. Tout le monde disait, tout va bien. Il y avait bien un nombre impressionnant de médecins qui entourent le président, qui disaient, pareil, qu'il n'y avait rien du tout. Et le 20 mars, c'est la guerre, faut tout fermer. Les conséquences, elles vont être dramatiques. On est devant une crise dont on n'a pas conscience. Là, je viens à Sud Radio, je vois plus personne dans les bureaux. Mais on va voir, là, tout le monde en chômage partiel. On se rend pas compte encore.
On sait que l'après, justement, vous êtes très pessimiste.
Mais
sur
ça va être un truc de
dans
malade.
Les banlieues, notamment. Mais on parlait déjà de la situation désastreuse dans les banlieues.
Mais déjà,
comme la situation économique dans le pays.
Comme je vous dis, il y a des gens qui faisaient un repas par jour. Vous avez bien vu, vous avez envoyé des colis aux gens. Ils ont même arrêté de prendre des loyers dans certains quartiers pour que les gens puissent bouffer. Donc quand les gens ont faim, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent violents, il va y avoir des conséquences dramatiques. Mais les riches seront moins riches, les pauvres seront de plus en plus pauvres. Déjà qu'on est déjà au-dessus de la moyenne nationale en termes de chômage, ça va être la merde.
On a vu les gilets jaunes pendant de longues semaines manifester, vous pensez qu'il va y avoir un retour mouvements sociaux?
Ça va être une catastrophe. Là, sincèrement, j'espère qu'ils vont trouver une solution, mais là, on est devant un truc inouï.
Il y a une marche des solidarités qui marquait, je cite selon eux, le début du déconfinement. déconfinement du mouvement social pour nombre de ces manifestants.
Mais bien sûr. Mais là,
vous
savez,
ça va revenir.
Mais attendez, mais là, on ne voit rien parce qu'il y a le chômage partiel. C'est un leurre. C'est un leurre. Là, c'est comme aux États-Unis. Pourquoi ça part ? Parce qu'il y a la pandémie, les gens ont perdu leur boulot et ils n'ont pas nos protections qu'on nous on a en France. Quand on est viré, on est viré. Quand on n'a pas de taf, on n'a pas de taf aux États-Unis. Ça se passe comme ça. Donc là, ce qui va arriver, bien sûr que ça va arriver. Quand le chômage partiel va arriver, on va passer un petit été, hein, bonnes vacances. Mais la rentrée, elle va être très compliquée. Parce que vous l'entendez, les entreprises de voitures, de ceci, de cela, le cinéma, le sport, tout est fermé. J'aurais voulu organiser mes événements, j'aurais misé. Fini. Heureusement que je travaille plus, que je suis plus là-dedans. Les commerçants, les cafés, c'est pas au mois de juin qu'ils font leur commerce, si, dans le sud, mais pas à Paris. Hein. Au mois d'août, il est mort. Là, pendant 3 mois, ils payent pas. Les charges, ils vont continuer à payer. Mais c'est le bordel, là. Mais c'est un bordel monstre qui nous attend. Les gens, là, ils sont hors délire, le confinement. Mais putain, ça aurait pu être évité. Un masque, du gel. On a fait quoi de plus ? En fait, c'est parce qu'on n'avait pas de respirateur, on n'avait rien. Et c'est pour ça que ça a pris qu'on a eu tous ces trucs-là.
Au final, on arrive bientôt à la conclusion de cette émission. Vous pensez, Patrice Carteron, que le monde d'après, il va être différent ? Il va pas être meilleur aussi ?
Écoutez, j'espère. Ben déjà, peut-être qu'on va respecter un peu plus les gens du terrain, parce que la différence entre l'Allemagne et la France, c'est que là-bas, la médecine de ville, il y a plus de médecine de ville que de médecine. C'est 40%, 30% et 27% pour l'hôpital. Donc, ils donnent plus d'argent pour la médecine de ville. Donc, il y a plus de médecins. Donc, on va peut-être penser à faire un peu plus de prévention que de gérer les situations après. Si on n'avait pas enlevé tous ces lits d'hôpitaux, les 20 000 lits d'hôpitaux qu'on avait, etc., on n'aurait pas eu de problème de respirateur. Mais tout ça parce qu'on a voulu faire des économies de bout de chandelle, et tout ça, ça nous coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. C'est comme quand je bossais en sécurité et que j'avais un patron, je disais ça marche, et le mec il me laissait avec de plus en plus de clients, le jour où c'est parti en cacahuète, aujourd'hui ce patron, je pense à lui, il est tout seul, il a plus d'argent, il a perdu un bâtiment avec 3 appartements parce que tout a explosé. Ben ouais, parce qu'à un moment donné, pourquoi les administrateurs qui veulent toujours économiser là où il ne faut pas économiser ? Qui a géré la crise ? Ce ne sont pas les administrations, ce sont les aides-soignants avec des sacs poubelles, des ceci sur la gueule, des ceci sur cela. C'est une honte. Même au Maroc, en Algérie, j'ai des potes à moi qui m'envoient
beaucoup viennent de banlieue, on le rappelle.
Et tous de banlieue. C'est la honte ce qui nous est arrivé. Et je voyais, tout le monde avait des masques, du gel, ils avaient tout ce qui bouge. Nous, on n'a rien. On n'a pas respecté notre industrie. Ils ont une industrie, ils ont été capables de faire des choses. Nous, on n'a rien. Tous ces gens-là, oh, ces gueux, ils travaillent pour nous. Les bobos parisiens qui... Eh ben, si on n'était pas là... J'en parle à ces gens-là. Si on n'était pas là, vous auriez tous crevé, bande de merde. Et ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime pas ça aussi. Parce que moi, comme j'ai dit, quand ça va pas, ça va. Mais moi, mais ma parole, je serais policier. Mais c'est à coup de poing, je les fais dégager hier. Ces bouffons, ils étaient tous contents avec leur casquette à l'envers.
Parlez donc
normal.
De ces jeunes qui étaient aux abords des quais.
Alors que le truc, on était presque en train de dire attention, les jeunes, 300 footballeurs.
Non, en même temps, on a été
c'est
tellement déconfinés. Oui.
C'est faut arrêter. Non, c'est la vérité, c'est quoi ? C'est la vérité, c'est le problème de faciès. Et que surtout, que ces gens-là, ils vont pas se laisser faire, ils vont porter plainte. Et que nous, on va rien faire du tout. Donc moi, ça me gave.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Patrice Carteron, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles. Merci à Quentin Cabanis et Micha Agar au digital, exactement aussi à Nicolas Philippi, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Incorrectibles dimanche prochain.
Et je pense que vous serez là. Et je voulais dire... Là, j'attends, puisque Raoult, on va l'appeler d'harcèlement sexuel, on va lui mettre un coup d'harcèlement sexuel, on va le virer bientôt, j'en suis sûr.
Ce sera votre pronostic. En tout cas, un débat entre Idrissa Berkane et le docteur Laurent Alexandre, c'est dimanche prochain pour le grand débat pour ou contre la chloroquine sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Bonne semaine à tous.